Le supermarché improbable. Ce soir, je suis dans le tram, assis à mon club 4, réfléchissant comme à mon habitude. Voyez-vous, je suis du genre à anticiper, à organiser, bref, à planifier. Dans le jargon technique de la psychologie, on va dire que je suis plutôt J sur la dimension JP du MBTI. Et surtout, ne venez pas me dire qu'il s'agit d'une dimension jungienne. Oui, j'y tiens, car Jung n'a proposé que trois dimensions, EI, SN et TF. La dimension JP a été ajoutée par les auteurs Isabelle et Catherine Brix. Alors je vous en prie, ne faites pas comme certains mauvais psychologues qui pensent que les quatre dimensions ont été proposées par Jung dans sa célèbre typologie. Et ne me demandez pas non plus pourquoi Isabelle et Catherine portent le même nom. Mais voilà que je m'égare, car à l'origine, il ne s'agit pas de parler du MBTI, il s'agit de parler d'un supermarché improbable. J'étais donc dans mon tram T3, assis toujours sur mon club 4, réfléchissant à ce que j'allais manger ce soir. Échafaudant de nombreuses hypothèses, oui, je suis du genre à anticiper, comme je vous l'ai déjà expliqué, échafaudant de nombreuses hypothèses, disais-je, j'en arrivais à cet insight, c'est-à-dire à cet éclair transcendant qui vous apporte cette réponse que vous cherchez depuis des heures et des heures. Et en l'occurrence, ici, cet insight n'est autre qu'un pot de rillettes. En effet, en réfléchissant à toutes les hypothèses de mes culinaires qui pourraient faire mon repas du soir, je me suis souvenu que j'avais dans mon placard, en haut à gauche de ma cafetière Krups à boyau intégré, un petit pot de rillettes qui devrait être bien bonne car elles viennent du Mans. Et ce n'est pas une forfaiture, ni une invention de ma part, car c'est marqué dessus. J'ai donc poursuivi ma réflexion en partant de l'hypothèse rillette. Mon schéma cognitif est alors le suivant. Tout d'abord, s'interroger sur les conditions dans lesquelles les rillettes du Mans seront les plus goûteuses. À cette question, tout le monde vous répondra sans exception, délicatement étalé sur un morceau de pain frais et croustillant. Il me faut donc trouver une boulangerie susceptible de me fournir en pain frais et croustillant. Ici, mon heuristique de raisonnement est assez simple, puisque j'identifie immédiatement la boulangerie du bas de chez moi. Mais il est nécessaire de prendre en compte quelques caractéristiques. Nous sommes vendredi, il est 17h. Le pain le plus frais et le plus croustillant sera donc celui de la fournée du soir qui est disponible, d'après mes observations, après 18h. Il faut donc que j'arrive à la boulangerie du bas de chez moi après 18h, mais avant 19h15, car à 7h, il n'y a plus de pain. Je me vois déjà tartinant délicatement mes rillettes du Mans sur la baguette tradition, tout juste sortie du four, fraîche et croustillante à souhait. C'est alors que j'imagine le petit carré de pain, surmonté d'une épaisseur consistante de rillettes, accompagné d'un corps sacrebleu. Je comprends immédiatement la faille de ma démonstration. Et le gâchis gastronomique, si je ne résous pas d'abord cet imbroglio. Je n'ai plus de cornichons chez moi. Heureusement que je suis du genre à anticiper, car la rillette a beau être étalée sur du pain frais et croustillant, si elle n'est pas accompagnée d'un cornichon, c'est toute une tradition française qui est bafouée. Il me faut donc trouver rapidement, et en tout cas avant 18h, un pot de cornichons de bonne facture. Première hypothèse, je passerai au petit magasin Franprix avant de passer à la boulangerie et je pourrai trouver un pot de cornichons. Encore une fois, mon anticipation me permet d'évaluer la qualité des cornichons que je peux trouver dans mon petit magasin Franprix. Je me souviens en effet que le dernier pot acheté était rempli de cornichons tellement fins que j'ai dû les prendre la pince à épiler. Des cornichons fins, je veux bien, mais il faut quand même qu'il y ait de la matière à croquer. Il me faut donc trouver un autre lieu d'approvisionnement en bocal de cornichons. J'en étais là de mes réflexions lorsque je m'aperçois que mon tram T3 est en approche de la gare de Rosa Parks. Je jette alors un œil sur l'horloge gigantesque totalement incrustée dans le mur de la station RER. 17h25. Autant dire que si je prends le RER de 17h35, je risque d'arriver un peu tôt à la boulangerie. Je décide alors de profiter du petit temps que j'ai à tuer devant moi pour me rendre chez l'épicier Édouard Leclerc de Rosa Parks. Voyez-vous, Rosa Parks est une station RER relativement récente et les aménagements autour de Rosa Parks sont encore plus récents. Il y a là des dizaines et des dizaines de magasins, de restaurants, de croissanteries. Bref, nous sommes là dans un quartier totalement rénové façon branchouille. Je veux dire par là que nous sommes très loin de l'architecture douteuse et principalement cubique, voire parallélépipédique rectangle, des magasins de zone commerciale. Pour le dire autrement, nous sommes très loin des zones commerciales affreuses, composées de hangars en tôle aux couleurs tantôt blafardes, tantôt criardes, qui enlaidissent les paysages de nos périphéries urbaines par des non-sens esthétiques qui insultent les yeux des hommes et des femmes qui se précipitent à l'intérieur, non pour consommer voracement, mais pour s'épargner la vision d'horreur métallique qui étale au grand jour notre régression architecturale depuis des millénaires et le modèle de la périphérie urbaine du Caire, magnifiquement aménagée du côté du plateau de Gizeh. Trois petits points de suspension comprennent qui peut ou qui veut, mesdames et messieurs de la grande distribution, responsable de la défiguration de nos périphéries urbaines. Et paf, ça, c'est fait. Bon, et où est-ce que j'en étais ? Ah oui, voyez-vous, lorsque vous entrez dans l'épicerie Édouard Leclerc de Rosa Parks, après les classiques portillons automatiques, vous pénétrez dans un intérieur aux couleurs chatoyantes et à l'équipement électronique branché et connecté de la dernière génération. Par exemple, vous avez un appareil qui transforme vos pièces de monnaie en bons d'achat. J'ai pas tout compris l'intérêt d'une telle fonctionnalité, mais bon, s'ils l'ont fait, c'est que ça doit servir. Un peu plus loin, vous avez sur votre gauche une espèce de cage vitrée transparente, derrière laquelle défilent des clients à la queue leu-leu. Vous vous demandez bien ce qu'ils font, jusqu'à ce que vous découvriez qu'ils passent leur article sur les caisses automatiques sans caissière. Encore un peu plus loin, derrière son comptoir, le monsieur de la sécurité récupère votre sac exactement comme la conciergerie. C'est-à-dire qu'il prend votre sac, va le ranger dans un espace dédié et vous donne en échange un petit carton avec un numéro. Autant dire le grand luxe des palaces parisiens à la portée du client d'Édouard Leclerc. Je pénètre donc dans le magasin, admirant devant moi les kilomètres de linéaires, mais attention, pas des linéaires en tôle blanche bafarde toute tordue, à l'image de l'architecture en tôle cubique des dits magasins. Non, non, non. Devant moi, ce sont de magnifiques étalages design, de couleur noire, comme les célèbres berlines allemandes, recouvertes de bois, sans aucun doute de sapin des Vosges à ce niveau de qualité. Voyez-vous, dans ce magasin, les étiquettes ne sont pas toutes pourries et illisibles comme dans tous les autres magasins. Ici, les étiquettes sont fabriquées dans la même technologie que les liseuses sur lesquelles vous téléchargez le dernier Guillaume Musso. Oui, alors là, je préfère prévenir tout de suite. J'ai cité Guillaume Musso juste pour que les moteurs de recherche genre Google répertorient mon article. En effet, si j'avais choisi un autre auteur plus intéressant, voire même Carl Gustav Jung, la probabilité pour que Google référence mon article aurait été bien plus faible. Tout cela pour dire que je n'ai jamais lu Guillaume Musso et que je serais bien incapable de citer quoi que ce soit de sa plume. Bon, vous l'avez compris, le magasin est hyper tendance. On pourrait même dire qu'il est hype. Et là, vous vous dites, mais où est-ce qu'il veut nous emmener avec son histoire de magasin ultramoderne ? Eh bien, voyez-vous, dans ce magasin ultramoderne, ultra-design, ultra-tendance et tout, eh bien, on ne trouve rien. Car mon bocal de cornichons, je ne l'ai jamais trouvé. Ah ça, des cornichons, j'en ai trouvé. Et pas que dans les clients. Des cornichons à la russe, des cornichons aigre doux, des cornichons au vinaigre balsamique, des cornichons au sel de Guérande, des cornichons au piment d'Espelette, des cornichons sans glyphosate. Oui, là, j'ai un peu inventé. Mais c'est pour la même raison que le Musso du dessus. Le mot glyphosate est très tendance en ce moment. Donc, en le rajoutant, paf, les moteurs de recherche vont relayer mon article et bim, cet article aura plein de statistiques, de followers et tout. Bon, où est-ce que j'en étais ? Ah oui, des cornichons machin tout ça, des cornichons au jus de pruneau d'Agen, des cornichons élevés sous la mer, des cornichons sans sucre ajouté, des cornichons à 25% de matière grasse. Et sans oublier, évidemment, les célèbres cornichons du bassin d'Arcachon. Mais des cornichons tout simples. Que nenni ! Nada ! Rien ! Impossible de trouver un bocal de cornichons tout simple. De guerre là, j'ai donc renoncé à ma quête du cornichon dans cette épicerie. Car oui, il faut le dire, et dénoncer cette situation intolérable où, en France, en 2017, l'administration autorise l'ouverture de magasins improbables dans lesquels on ne trouve pas de cornichons basiques. Alors même qu'il en va de l'avenir de notre gastronomie. Je repense ici à mes rillettes orphelines. Reposez en paix. Le frigidaire sera votre caveau pour l'éternité tant que je ne trouverai pas de cornichons. Amen. Alors je le demande solennellement au gouvernement, il faut obliger les épiciers à vendre des cornichons génériques. On a su le faire pour les médicaments, il faut le faire pour les cornichons.